La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les sirènes d'alarme se sont tues depuis plusieurs heures. Déjà dans le sud d'Israël, les journaux palestiniens et israéliens confirment qu'un cessez-le-feu a été décrété autour de la bande de Gaza.
Oui, des journaux qui avaient déjà annoncé pourtant le jour 3 de la nouvelle escalade meurtrière entamée samedi entre roquettes gazaouis et bombardements sur l'enclave palestinienne par l'armée israélienne. Finalement, ce lundi, donc, premier jour du Ramadan, et pour le moment celui de la trêve, cessez-le-feu, les mots s'étalent en une de Haaretz à Tel Aviv comme du Palestine de Gaza. Le journal palestinien qui nous livre ce qu'il croit être les détails de cet accord passé dans la nuit et sous médiation égyptienne. Les termes sont choisis. Les forces de résistance palestinienne, lit-on, ont convenu avec l'occupant israélien de suspendre les hostilités qui en deux jours ont fait 27 morts à Gaza et 4 en Israël. Tel Aviv, toujours selon Palestine, s'est engagé à assouplir le blocus imposé à la bande de Gaza, à rouvrir les checkpoints, à arrêter de prendre pour cible les pêcheurs, les agriculteurs gazaouis et les manifestants des marches du retour chaque vendredi, à condition bien entendu que la désescalade soit réciproque et synchronisée côté palestinien. Et finalement, résume The Middle East Eye, on en revient aux engagements qui avaient été négociés discrètement ces dernières semaines, déjà sous médiation égyptienne avec financement du Qatar et sous patronage des Nations Unies. Pas plus tard qu'hier soir, le New York Times citait le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, selon qui le calme pourrait revenir très vite à condition qu'Israël fasse sa part des gestes de bonne volonté et d'apaisement qui avaient été convenus. À ces conditions, la paix a donc encore une fragile chance de l'emporter, veut croire Haaretz quand le Times of Israel revient sur ce week-end où le conflit au Proche-Orient a atteint un niveau d'intensité meurtrière que l'on n'avait plus connu depuis 2014 avec des morts côté israélien. À l'époque, il y a 5 ans, on n'avait pas hésité à parler d'un retour à l'état de guerre. Et c'est vrai que plus de 600 roquettes palestiniennes se sont abattues depuis samedi dans le sud d'Israël, plus de 250 missiles israéliens tirés sur Gaza, puis ce calme donc qui est revenu dans la nuit et qui semble tenir à présent que le jour s'est levé. Alors vous vous demanderez certainement pourquoi Israël semble avoir cédé. Eh bien c'est en grande partie une question de calendrier et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a moins à voir avec le début du Ramadan chez les musulmans qu'avec l'organisation à Tel Aviv dans moins de 2 semaines du concours de l'Eurovision. Pour Israël, nous confirme le New York Times, c'est un enjeu de visibilité internationale qui ne doit surtout pas être troublé par la question palestinienne. Alors, entre guillemets, c'est de bonne guerre pour les groupes armés de Gaza de faire cette démonstration de force de ce week-end pour faire planer la menace de perturber plus encore le grand cirque télévisé. Et ça fonctionne, Haaretz nous en donne un aperçu. Pour le moment, les billets pour l'Eurovision ont bien du mal à se vendre seulement. 5000 touristes ont décidé de braver les tensions au Proche-Orient pour venir soutenir leur chanteur à Tel Aviv dans 2 semaines. Car si le week-end qui s'achève a prouvé quelque chose, eh bien, c'est que les roquettes gazaouis peuvent tomber tout près de la capitale israélienne.
Coïncidence ou pas, quelques heures avant que l'on annonce ce cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis avaient fait monter la pression sur l'Iran.
Oui, l'Iran à qui la Maison-Blanche, par la voix de son conseiller sécurité John Bolton, a tenu à envoyer un message clair et sans équivoque, nous raconte le New York Post. Ce message, on ne peut plus clair, donc, il prend la forme du porte-avions USS Abraham Lincoln, flanqué de son escorte et de ses bombardiers. L'armada, partie le 1er avril dernier des côtes américaines, va se positionner dans la région du Proche-Orient, avec donc Téhéran dans son collimateur. Le message, c'est celui-ci, repris par le site Politico. Le régime iranien est averti que toute attaque contre les intérêts américains ou contre ceux de ses alliés trouvera comme réponse une force impitoyable. Et John Bolton d'évoquer des organisations amies de Téhéran qui, elle aussi, pourrait tenter de s'en prendre aux amis de l'Amérique au Proche-Orient. Difficile de ne pas comprendre qu'il parle, entre autres, du djihad islamique, le groupe armé palestinien qui est présenté par de nombreux journaux, dont Al Monitor, comme le principal initiateur des violences de ce week-end dans la bande de Gaza et qui est financé en grande partie par le régime iranien. Sachez tout de même, vu de Téhéran, que ce déploiement de l'USS Lincoln est loin d'être innocent et seulement lié aux tensions récentes sur Gaza. Sur Press TV, l'organe officiel du régime iranien, on explique que le porte-avions américain croise en fait plus ou moins discrètement au large des côtes iraniennes depuis quelques jours. Il aurait même été filmé dans le secteur par un drone iranien. Son arrivée dans la région aurait donc été planifiée de longue date, au moins depuis début avril, par le Pentagone. Comme quoi, finalement, le message envoyé par les Américains n'est peut-être pas aussi clair et sans équivoque qu'on a voulu nous le dire.
Et puis on termine avec un détour par l'Algérie, Camille, qui a vécu ce week-end un moment crucial de l'après Bouteflika.
Les journaux algériens ne parlent encore que de cela ce matin. L'arrestation samedi du frère du président chassé du pouvoir, Saïd Bouteflika, et avec lui deux généraux qui dirigeaient avant la révolution les services de renseignement du pays. Les dénommés généraux Toufik et Tartag. Avec leur interpellation, suivie de leur inculpation hier soir par un tribunal militaire, à lire le site Algériepart, on comprend que c'est un véritable séisme politique qui secoue le pays. Le nouveau pouvoir semble enfin demander des comptes aux plus éminents représentants de l'ancien, en tout cas de la vie de tous, ceux qui tiraient les ficelles dans le dos du chef de l'État grabataire. C'est d'ailleurs pour complot contre l'État et contre l'autorité de l'armée que Saïd, Toufik et Tartag sont poursuivis, confirme Tout sur l'Algérie, qui nous raconte comment les Algériens ont mis du temps avant de croire à l'annonce de ces arrestations et ne se sont laissés aller à leur joie qu'hier après-midi, après publication d'images des trois prévenus arrivant au tribunal militaire de Blida. Le portail d'information Maghreb émergent, enfin, décrit la déception tout de même de ces mêmes Algériens devant leur télé hier soir. On leur avait annoncé une allocution exceptionnelle du président par intérim Abdelkader Ben Salah, qui avait été placé sur le siège d'Abdelaziz Bouteflika par l'armée et qui est critiqué par le peuple pour être lui aussi un apparatchik de l'ancien régime. Dans le contexte ambiant de grand ménage de printemps, beaucoup avaient voulu croire que Ben Salah allait annoncer sa démission. Eh bien, il n'en a rien été, d'où la grande déception évoquée par Maghreb émergent, qui se console tout de même avec la date du 4 juillet, réaffirmée comme celle de la prochaine élection présidentielle. Ce sera la première depuis longtemps, conclut Tout sur l'Algérie, que Saïd Bouteflika ne pourra pas truquer. Lui, le président de l'ombre, qui se voyait déjà élu pour succéder à son frère, mais qui croupit désormais dans une cellule vouée, je cite TSA, à une fin pitoyable.
Merci beaucoup Camille Magnard, 7h42 sur France Culture.